Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette émission, nous commencerons par l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. En seconde partie, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège, en Belgique, avec qui nous poursuivrons la lecture de la jeunesse selon le spiritisme. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et autres pays limitrophes, ou tout simplement consulter notre site internet. À toutes et tous, nos amitiés civiles ou fraternelles selon, agissons avec amour aussi souvent que nous le pouvons, n'abandonnons jamais l'espoir. Sachons aussi que nous sommes aimés car nous sommes le seul moyen dont dispose l'amour pour triompher de son contraire. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique et Luxembourg. En Belgique tout d'abord. Nos amis du Centre d'études Spirit Allan Kardec de Bruxelles organisent une conférence le mercredi 17 novembre 2010 à 19h30. Celle-ci vous sera présentée par le docteur José Fernando de Souza. Il sera question des troubles d'attention, de l'hyperactivité et des enfants indigos. Celle-ci aura lieu au siège social du CESAC 134 Rue Louis App à 1040 Bruxelles Capitale. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante CESAC Bruxelles en un mot @gmail.com. Au Grand-Duché du Luxembourg, n'oubliez surtout pas le samedi 20 novembre 2010, premier symposium du Grand-Duché de Luxembourg. Sujet interconnexion médecine-spiritualité. Celui-ci sera placé sous l'égide de nos amis du groupe Spirit Allan Kardec du Luxembourg et de l'Association des médecins spirites. Adresse du jour, Centre Sociétaire 29, rue de Strasbourg, à 2560 Luxembourg Gare. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact par courriel à l'adresse suivante Allan Kardec Lux en un mot @yahoo.fr ou directement via le site du GESAC www.groupespiritallankardecluxenunmot.com. En France, le samedi 20 novembre 2010 à 17h, le Centre d'études Spirit Victor Hugo recevra en son siège social 22 rue Duchesse Anne à 35 760 Saint-Grégoire près de Rennes, notre frère Michael Ponsardin, lequel vous présentera une conférence sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium. Renseignements et inscriptions par téléphone en formant depuis la France le 06 26 31 76 29 ou via courriel à l'adresse suivante centre.victorhugo@gmail.com. Nos amis de l'Association du Chemin vous invitent à prendre note de l'agenda des conférences prévues pour les prochains mois. Le samedi 27 novembre à 14h30, sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium, celle-ci vous sera présentée par notre frère Michael Ponsardin, conférencier biographe. La dernière conférence, quant à elle, est prévue autour du thème La force de la prière. Elle aura lieu le samedi 18 décembre 2010 à 14h30. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr ou par voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Vous pourrez également obtenir d'autres informations via le site internet de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. À Paris, l'Association parisienne d'études spirites vous présentera Daniel, un récit d'une vie, une réincarnation. Celle-ci aura lieu le vendredi 19 novembre 2010 à 20h. Le vendredi 23 novembre, ils vous retrouveront avec plaisir pour une discussion publique autour du thème « Vers la lumière ». Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante mail@apes.asso.fr. www.apes.fr ou directement sur le site de l'APES www.apes.asso.fr. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 17 traitant des prédictions de l'Évangile selon le spiritisme, jugement dernier suite, points 64 à 67. Chapitre 18, les temps sont arrivés, points 1 à 4.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 17, prédictions de l'Évangile, jugement dernier, suite. Point 64. La doctrine d'un jugement dernier, unique et universel, mettant à tout jamais fait à l'humanité, répugne à la raison en ce sens qu'elle impliquerait l'inactivité de Dieu pendant l'éternité qui a précédé à la création de la terre et l'éternité qui suivra sa destruction. On se demande de quelle utilité seraient alors le soleil, la lune et les étoiles qui, selon la Genèse, ont été faits pour éclairer notre monde. On s'étonne qu'une œuvre aussi immense ait été faite pour si peu de temps et au profit d'êtres dont la majeure partie était vouée d'avance au supplice éternel. Point 65. Matériellement, l'idée d'un jugement unique était, jusqu'à un certain point, admissible pour ceux qui ne cherchent pas la raison des choses, alors que l'on croyait toute l'humanité concentrée sur la terre et que tout, dans l'univers, avait été fait pour ses habitants. Elle est inadmissible depuis que l'on sait qu'il y a des milliards de mondes semblables qui perpétuent les humanités pendant l'éternité et parmi lesquels la Terre est un point imperceptible des moins considérables. On voit par ce seul fait que Jésus avait raison de dire à ses disciples « Il y a beaucoup de choses que je ne puis vous dire parce que vous ne les comprendriez pas. » Puisque le progrès des sciences était indispensable pour une saine interprétation de quelques-unes de ses paroles. Assurément, les apôtres, Saint Paul et les premiers disciples, auraient établi tout autrement certains dogmes s'ils avaient eu les connaissances astronomiques, géologiques, physiques, chimiques, physiologiques et psychologiques que l'on possède aujourd'hui. Aussi Jésus a-t-il ajourné le complément de ses instructions et annoncé que toute chose devait être rétablie. Point 66. Moralement, un jugement définitif et sans appel était conciliable avec la bonté infinie du Créateur, que Jésus nous présente sans cesse comme un bon père, laissant toujours une voie au repentir et prêt à tendre ses bras à l'enfant prodigue. Si Jésus avait entendu le jugement en ce sens, il aurait démenti ses propres paroles. Et puis, si le jugement final doit surprendre les hommes à l'improviste, au milieu de leurs travaux ordinaires, et les femmes enceintes, on se demande dans quel but Dieu, qui ne fait rien d'inutile ni d'injuste, ferait naître des enfants et créerait des âmes nouvelles à ce moment suprême, au terme fatal de l'humanité, pour les faire passer hors jugement au sortir du sein de la mer, avant qu'elles aient la conscience d'elles-mêmes, alors que d'autres ont eu des milliers d'années pour se reconnaître. De quel côté, à droite ou à gauche, passeront ces âmes qui ne sont encore ni bonnes ni mauvaises, et à qui toute voie ultérieure de progrès est désormais fermée, puisque l'humanité n'existera plus? Entre parenthèses, chapitre 2, numéro 19. Fermez la parenthèse. Que ceux dont la raison se contente de pareilles croyances les conservent, c'est leur droit, et personne n'y trouve à redire, mais qu'on ne trouve pas mauvais non plus que tout le monde ne soit pas de leur avis. Point 67. Le jugement, par voie d'émigration, tel qu'il a été défini ci-dessus, voire point 63, est rationnel. Il est fondé sur la plus rigoureuse justice, attendu qu'il laisse éternellement à l'esprit son libre arbitre, qu'il ne constitue de privilège pour personne, qu'une égale latitude est donnée par Dieu à toutes ses créatures, sans exception, pour progresser, que l'anéantissement même d'un monde entraînant la destruction du corps n'apporterait aucune interruption à la marche progressive de l'esprit. Telle est la conséquence de la pluralité des mondes et de la pluralité des existences. Selon cette interprétation, la qualification de jugement dernier n'est pas exacte, puisque les esprits passent par de semblables assises à chaque rénovation des mondes qu'ils habitent jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain degré de perfection. Il n'y a donc point, à proprement parler, de jugement dernier. Mais il y a des jugements généraux à toutes les époques de rénovation partielle ou totale de la population des mondes, par suite desquels s'opèrent les grandes émigrations et immigrations d'esprit. Chapitre 18. Les temps sont arrivés. Signe des temps. Point 1. Les temps marqués par Dieu sont arrivés, nous dit-on de toutes parts, où de grands événements vont s'accomplir pour la régénération de l'humanité. Dans quel sens faut-il entendre ces paroles prophétiques? Pour les incrédules, elles n'ont aucune importance. À leurs yeux, ce n'est que l'expression d'une croyance puérile sans fondement. Pour le plus grand nombre des croyants, elles ont quelque chose de mystique et de surnaturel qui leur semble être l'avant-coureur du bouleversement des lois de la nature. Ces deux interprétations sont également erronées. La première, en ce qu'elle implique la négation de la providence. Et la seconde, en ce que ces paroles n'annoncent pas la perturbation des lois de la nature, mais leur accomplissement. Point 2. Tout est en harmonie dans la création. Tout révèle une prévoyance qui ne se dément ni dans les plus petites choses, ni dans les plus grandes. Nous devons donc d'abord écarter toute idée de caprice inconciliable avec la sagesse divine. En second lieu, si notre époque est marquée pour l'accomplissement de certaines choses, c'est qu'elles ont leur raison d'être dans la marche de l'ensemble. Ceci posé, nous dirons que notre globe, comme tout ce qui existe, est soumis à la loi du progrès. Il progresse physiquement par la transformation des éléments qui le composent et moralement par l'épuration des esprits incarnés et désincarnés qui le peuplent. Ces deux progrès se suivent et marchent parallèlement, car la perfection de l'habitation est en rapport avec celle de l'habitant. Physiquement, le globe a subi des transformations, constatées par la science et qui l'ont successivement rendu habitable par des êtres de plus en plus perfectionnés. Moralement, l'humanité progresse par le développement de l'intelligence, du sens moral et l'adoucissement des mœurs. En même temps que l'amélioration du globe s'opère sous l'empire des forces matérielles, les hommes y concourent par les efforts de leur intelligence. Ils assainissent les contrées insalubres, rendent les communications plus faciles et la terre plus productive. Ce double progrès s'accomplit de deux manières, l'une lente, graduelle et insensible, l'autre par des changements plus brusques, à chacun desquels s'opère un mouvement ascensionnel plus rapide qui marque, par des caractères tranchés, les périodes progressives de l'humanité. Ces mouvements, subordonnés dans les détails au libre arbitre des hommes, sont en quelque sorte fatals dans leur ensemble, parce qu'ils sont soumis à des lois, comme ceux qui s'opèrent dans la germination, la croissance et la maturité des plantes. C'est pourquoi le mouvement progressif est quelquefois partiel, c'est-à-dire borné à une race ou à une nation, d'autres fois générale. Le progrès de l'humanité s'effectue donc en vertu d'une loi. Or, comme toutes les lois de la nature sont l'œuvre éternelle de la sagesse et de la préscience divine, tout ce qui est l'effet de ces lois est le résultat de la volonté de Dieu, non d'une volonté accidentelle et capricieuse, mais d'une volonté immuable. Lors donc que l'humanité est mûre pour franchir un degré, on peut dire que les temps marqués par Dieu sont arrivés, comme on peut dire aussi qu'en telle saison, ils sont arrivés pour la maturité des fruits et la récolte. Point 3. De ce que le mouvement progressif de l'humanité est inévitable, parce qu'il est dans la nature, il ne s'ensuit pas que Dieu y soit indifférent et qu'après avoir établi des lois, il soit rentré dans l'inaction, laissant les choses aller toutes seules. Ces lois sont éternelles et immuables, sans doute, mais parce que sa volonté elle-même est éternelle et constante, et que sa pensée anime toute chose sans interruption. Sa pensée, qui pénètre tout, est la force intelligente et permanente qui maintient tout dans l'harmonie. Que cette pensée cesse un seul instant d'agir, et l'univers serait comme une horloge sans balancier régulateur. Dieu veille donc incessamment à l'exécution de ses lois, et les esprits qui peuplent l'espace sont ses ministres chargés des détails, selon les attributions afférentes à leur degré d'avancement. Point 4. L'univers est à la fois un mécanisme incommensurable, conduit par un nombre non moins incommensurable d'intelligence, un immense gouvernement où chaque être intelligent a sa part d'action, sous l'œil du souverain maître, dont la volonté unique maintient partout l'unité. Sous l'empire de cette vaste puissance régulatrice, tout se meut, tout fonctionne dans un ordre parfait. Ce qui nous semble des perturbations sont les mouvements partiels et isolés, qui ne nous paraissent irréguliers que parce que notre vue est circonscrite. Si nous pouvions en embrasser l'ensemble, nous verrions que ces irrégularités ne sont qu'apparentes et qu'elles s'harmonisent dans le tout.
Continuons notre lecture du jour. Par la suite du chapitre 18 traitant des prédictions de l'Évangile. Les temps sont arrivés, signe des temps, suite du point 5 à 9.
La jeunesse selon le spiritisme, suite du chapitre 18, les temps sont arrivés. Signe des temps, suite, point 5. L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts et du bien-être matériel. Il leur reste encore un immense progrès à réaliser. C'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité et la solidarité pour assurer le bien-être moral. Ils ne le pouvaient ni avec leurs croyances, ni avec leurs institutions surannées, restes d'un autre âge, bonnes à une certaine époque, suffisante pour un état transitoire, mais qui, ayant donné ce qu'elle comportait, serait un point d'arrêt aujourd'hui. Ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment, et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Telle est la période où ils vont entrer désormais et qui marquera une des phases principales de l'humanité. Cette phase qui s'élabore en ce moment est le complément nécessaire de l'état précédent, comme l'âge viril est le complément de la jeunesse. Elle pouvait donc être prévue et prédite d'avance, et c'est pour cela qu'on dit que les temps marqués par Dieu sont arrivés. Point 6. En ce temps-ci, il ne s'agit pas d'un changement partiel, d'une rénovation bornée à une contrée, à un peuple, à une race. C'est un mouvement universel qui s'opère dans le sens du progrès moral. Un nouvel ordre de choses tend à s'établir, et les hommes qui y sont le plus opposés y travaillent à leur insu. La génération future, débarrassée des scories du vieux monde et formée d'éléments plus épurés, se trouvera animée d'idées et de sentiments tout autres que la génération présente qui s'en va à pas de géant. Le vieux monde sera mort et vivra dans l'histoire, comme aujourd'hui les temps du Moyen-Âge avec leurs coutumes barbares et leurs croyances superstitieuses. Du reste, chacun sait combien l'ordre de choses actuel laisse encore à désirer. Après avoir en quelque sorte épuisé le bien-être matériel qui est le produit de l'intelligence, on arrive à comprendre que le complément de ce bien-être ne peut être que dans le développement moral. Plus on avance, plus on sent ce qui manque, sans cependant pouvoir encore le définir clairement. C'est l'effet du travail intime qui s'opère pour la régénération. On a des désirs, des aspirations qui sont comme le pressentiment d'un état meilleur. Point 7. Mais un changement aussi radical que celui qui s'élabore ne peut s'accomplir sans commotion. Il y a lutte inévitable entre les idées. De ce conflit naîtront forcément des perturbations temporaires jusqu'à ce que le terrain soit déblayé et l'équilibre rétabli. C'est donc de la lutte des idées que surgiront les graves événements annoncés et non de cataclysmes ou catastrophes purement matérielles. Les cataclysmes généraux étaient la conséquence de l'état de formation de la Terre. Aujourd'hui, ce ne sont plus les entrailles du globe qui s'agitent, ce sont celles de l'humanité. Point 8. Si la Terre n'a plus à redouter des cataclysmes généraux, elle n'en est pas moins soumise à des révolutions périodiques dont les causes sont expliquées au point de vue scientifique dans les instructions suivantes données par deux éminents esprits. Remarque. Extrait de deux communications données à la Société de Paris et publié dans la revue Spirit d'octobre 1868, page 313. Elles sont le corollaire de celles de Galilée rapportées au chapitre 6 et un complément au chapitre 9 sur les révolutions du globe. Fin de la remarque. Chaque corps céleste, outre les lois faibles qui président à la division des jours et des nuits, des saisons, etc., subit des révolutions qui demandent des milliers de siècles pour leur parfait accomplissement, mais qui, comme les révolutions plus brèves, passent par toutes les périodes, depuis la naissance jusqu'à un summum d'effet, après lequel il y a décroissance jusqu'à la dernière limite, pour recommencer ensuite à parcourir les mêmes phases. L'homme n'embrasse que les phases d'une durée relativement courte et dont il peut constater la périodicité. Mais il en est qui comprennent de longues générations d'êtres et même des successions de races, dont les effets, par conséquent, ont pour lui les apparences de la nouveauté et de la spontanéité. Tandis que, si son regard pouvait se porter à quelques milliers de siècles en arrière, il verrait, entre ces mêmes effets et leurs causes, une corrélation qu'il ne soupçonne même pas. Ces périodes qui confondent l'imagination des humains par leur longueur relative ne sont cependant que des instants dans la durée éternelle. Dans un même système planétaire, tous les corps qui en dépendent réagissent les uns sur les autres. Toutes les influences physiques y sont solidaires, et il n'est pas un seul des effets que vous désignez sous le nom de grande perturbation qui ne soit la conséquence de la composante des influences de tout ce système. Je vais plus loin. Je dis que les systèmes planétaires réagissent les uns sur les autres en raison du rapprochement ou de l'éloignement qui résulte de leur mouvement de translation à travers les myriades de systèmes qui composent notre nébuleuse. Je vais plus loin encore. Je dis que notre nébuleuse, qui est comme un archipel dans l'immensité, ayant aussi son mouvement de translation à travers les myriades de nébuleuses, subit l'influence de celles dont elle se rapproche. Ainsi, les nébuleuses réagissent sur les nébuleuses, les systèmes réagissent sur les systèmes, comme les planètes réagissent sur les planètes, comme les éléments de chaque planète réagissent les uns sur les autres, et ainsi de proche en proche, jusqu'à l'atome. De là, dans chaque monde, des révolutions locales ou générales qui ne semblent des perturbations que parce que la brièveté de la vie ne permet d'en avoir que les effets partiels. La matière organique ne saurait échapper à ces influences. Les perturbations qu'elle subit peuvent donc altérer l'état physique des êtres vivants et déterminer quelques-unes de ces maladies qui sévissent d'une manière générale sur les plantes, les animaux et les hommes. Ces maladies, comme tous les fléaux, sont pour l'intelligence humaine un stimulant qui la pousse, par la nécessité, à la recherche des moyens de les combattre et à la découverte des lois de la nature. Mais la matière organique réagit à son tour sur l'esprit. Celui-ci, par son contact et sa liaison intime avec les éléments matériels, subit aussi des influences qui modifient ses dispositions, sans cependant lui ôter son libre arbitre, surexcite ou ralentit son activité et par cela même contribue à son développement. L'effervescence qui se manifeste parfois dans toute une population, parmi les hommes d'une même race, n'est pas une chose fortuite, ni le résultat de caprice. Elle a sa cause dans les lois de la nature. Cette effervescence, d'abord inconsciente, qui n'est qu'un vague désir, une aspiration non définie vers quelque chose de mieux, un besoin de changement, se traduit par une sourde agitation, puis par des actes qui amènent les révolutions sociales, lesquelles, croyez-le bien, ont aussi leur périodicité, comme les révolutions physiques, car tout s'enchaîne. Si la vue spirituelle n'était pas circonscrite par le voile matériel, vous verriez ces courants fluidiques qui, comme des milliers de fils conducteurs, relient les choses du monde spirituel et du monde matériel. Quand on vous dit que l'humanité est arrivée à une période de transformation et que la Terre doit s'élever dans la hiérarchie des mondes, ne voyez dans ces paroles rien de mystique, mais au contraire, l'accomplissement d'une des grandes lois fatales de l'univers. Signé Arago. Point 9. Oui, certes, l'humanité se transforme comme elle s'est déjà transformée à d'autres époques, et chaque transformation est marquée par une crise qui est, pour le genre humain, ce que sont les crises de croissance pour les individus. Crise souvent pénible, douloureuse, qui emporte avec elle les générations et les institutions, mais toujours suivie d'une phase de progrès matériel et moral. L'humanité terrestre, arrivée à l'une de ces périodes de croissance, est en plein, depuis bientôt un siècle, dans le travail de la transformation. C'est pourquoi elle s'agite de toutes parts, en proie à une sorte de fièvre, et comme mue par une force invisible, jusqu'à ce qu'elle ait repris son assiette sur de nouvelles bases. Qui la verra alors la trouvera bien changée dans ses mœurs, son caractère, ses lois, ses croyances, en un mot, dans tout son état social. Une chose qui vous paraîtra étrange, mais qui n'en est pas moins une rigoureuse vérité, c'est que le monde des esprits qui vous environne subit le contre-coup de toutes les commotions qui agitent le monde des incarnés. Je dis même qu'il y prend une part active. Cela n'a rien de surprenant pour quiconque sait que les esprits ne font qu'un avec l'humanité. Qu'ils en sortent et doivent y rentrer. Il est donc naturel qu'ils s'intéressent aux mouvements qui s'opèrent parmi les hommes. Soyez donc certains que, lorsqu'une révolution sociale s'accomplit sur la Terre, elle remue également le monde invisible. Toutes les passions bonnes et mauvaises y sont surexcitées comme chez vous. Une indicible effervescence règne parmi les esprits qui font encore partie de votre monde et qui attendent le moment d'y rentrer.
Pour clôturer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 18 « Les temps sont arrivés », signe des temps, suite. Suite du point 9 à 15.
La jeunesse selon le spiritisme, suite du chapitre 18 « Les temps sont arrivés », signe des temps, suite. Suite du point 9. À l'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois, le plus souvent même, parce que tout se tient dans la nature, les perturbations des éléments physiques. C'est alors pour un temps une véritable confusion générale, mais qui passe comme un ouragan, après lequel le ciel redevient serein et l'humanité reconstituée sur de nouvelles bases, imbue de nouvelles idées, parcourt une nouvelle étape de progrès. C'est dans la période qui s'ouvre qu'on verra fleurir le spiritisme et qu'il portera ses fruits. C'est donc pour l'avenir, plus que pour le présent, que vous travaillez. Mais il était nécessaire que ces travaux fussent élaborés d'avance, parce qu'ils préparent les voies de la régénération par l'unification et la rationalité des croyances. Heureux ceux qui en profitent dès aujourd'hui. Ce sera pour eux autant de gagnés et de peines épargnées. Signé Dr. Barry. Point 10. Il résulte de ce qui précède que, par suite de leur mouvement de translation à travers l'espace, les corps célestes exercent, les uns sur les autres, une influence plus ou moins grande, suivant leur rapprochement et leur position respective. Que cette influence peut amener une perturbation momentanée dans leurs éléments constitutifs et modifier les conditions de vitalité de leurs habitants. Que la régularité des mouvements doit amener le retour périodique des mêmes causes et des mêmes effets, que si la durée de certaines périodes est assez courte pour être appréciable par les hommes, d'autres voient passer des générations et des races qui ne s'en aperçoivent pas et pour lesquelles l'état des choses est un état normal. Les générations, au contraire, contemporaines de la transition, en subissent le contre-coup, et tout paraît s'écarter des lois ordinaires. Elle voit une cause surnaturelle, merveilleuse, miraculeuse, dans ce qui n'est en réalité que l'accomplissement des lois de la nature. Si, par l'enchaînement et la solidarité des causes et des effets, les périodes de rénovation morale de l'humanité coïncident, comme tout porte à le croire, avec les révolutions physiques du globe, elles peuvent être accompagnées ou précédées de phénomènes naturels. Insolite pour ceux qui n'y sont pas habitués, de météores qui semblent étranges, d'une recrudescence et d'une intensité inaccoutumée des fléaux destructeurs. Ces fléaux ne sont ni une cause, ni des présages surnaturels, mais une conséquence du mouvement général qui s'opère dans le monde physique et dans le monde moral. En prédisant l'ère de rénovation qui devait s'ouvrir pour l'humanité et marquer la fin du vieux monde, Jésus a donc pu dire qu'elle serait signalée par des phénomènes extraordinaires, des tremblements de terre, des fléaux divers, des signes dans le ciel qui ne sont autres que des météores sans sortir des lois naturelles. Mais le vulgaire ignorant a vu dans ses paroles l'annonce de faits miraculeux. Remarque, la terrible épidémie qui de 1866 à 1868 a décimé la population de l'île Maurice a été précédée d'une pluie si extraordinaire et si abondante d'étoiles filantes en novembre 1866 que les habitants en ont été terrifiés. C'est de ce moment que la maladie, qui sévissait depuis quelques mois d'une manière assez bénigne, est devenue un véritable fléau dévastateur. C'était bien là un signe dans le ciel, et peut-être est-ce dans ce sens qu'il faut entendre les étoiles tombant du ciel dont parle l'Évangile comme l'un des signes des temps. Entre parenthèses, détail sur l'épidémie de l'île Maurice, voir revue Spirit de juillet 1867, page 208, et de novembre 1868, page 321. Fin de la remarque. Point 11. La prévision des mouvements progressifs de l'humanité n'a rien de surprenant chez des êtres dématérialisés qui voient le but où tend toute chose, dont quelques-uns possèdent la pensée directe de Dieu et qui jugent, au mouvement partiel, le temps auquel pourra s'accomplir un mouvement général, comme on juge d'avance le temps qu'il faut à un arbre pour porter des fruits, comme les astronomes calculent l'époque d'un phénomène astronomique par le temps qu'il faut à un astre pour accomplir sa révolution. Point 12. L'humanité est un être collectif en qui s'opèrent les mêmes révolutions morales que dans chaque être individuel, avec ces différences que les unes s'accomplissent d'année en année et les autres de siècle en siècle. Qu'on la suive dans ses évolutions à travers les temps et l'on verra la vie des diverses races marquées par des périodes qui donnent à chaque époque une physionomie particulière. Point 13. La marche progressive de l'humanité s'opère de deux manières, comme nous l'avons dit. L'une graduelle, lente, insensible, si l'on considère les époques rapprochées, qui se traduit par des améliorations successives dans les mœurs, les lois, les usages, et ne s'aperçoit qu'à la longue comme les changements que les courants d'eau apportent à la surface du globe. L'autre, par des mouvements relativement brusques, rapides, semblables à ceux d'un torrent, rompant ses digues, qui lui font franchir en quelques années l'espace qu'elle eut mis des siècles à parcourir. C'est alors un cataclysme moral qui engloutit en quelques instants les institutions du passé, et auquel succède un nouvel ordre de choses qui s'assied peu à peu, à mesure que le calme se rétablit et devient définitif. À celui qui vit assez longtemps pour embrasser les deux versants de la nouvelle phase, il semble qu'un monde nouveau soit sorti des ruines de l'ancien. Le caractère, les mœurs, les usages, tout est changé. C'est qu'en effet, des hommes nouveaux ou mieux régénérés ont surgi. Les idées emportées par la génération qui s'éteint ont fait place à des idées nouvelles dans la génération qui s'élève. Point 14. L'humanité devenue adulte a de nouveaux besoins, des aspirations plus larges, plus élevées. Elle comprend le vide des idées dont elle a été bercée, l'insuffisance de ses institutions pour son bonheur. Elle ne trouve plus, dans l'état des choses, les satisfactions légitimes auxquelles elle se sent appelée. C'est pourquoi elle secoue ses langes et s'élance, poussée par une force irrésistible, vers des rivages inconnus, à la découverte de nouveaux horizons moins bornés. C'est à l'une de ces périodes de transformation ou si l'on veut de croissance morale, qu'est parvenue l'humanité. De l'adolescence, elle passe à l'âge viril. Le passé ne peut plus suffire à ses nouvelles aspirations, à ses nouveaux besoins. Elle ne peut plus être conduite par les mêmes moyens. Elle ne se paye plus d'illusions et de prestige. Il faut à sa raison mûrir des aliments plus substantiels. Le présent est trop éphémère. Elle sent que sa destinée est plus vaste et que la vie corporelle est trop restreinte pour la renfermer tout entière. C'est pourquoi elle plonge ses regards dans le passé et dans l'avenir afin d'y découvrir le mystère de son existence et d'y puiser une consolante sécurité. Et c'est au moment où elle se trouve trop à l'étroit dans sa sphère matérielle, où la vie intellectuelle déborde, où le sentiment de la spiritualité s'épanouit, que des hommes se disant philosophes espèrent combler le vide par les doctrines du néantisme et matérialisme. Étrange aberration. Ces mêmes hommes qui prétendent la pousser en avant s'efforcent de la circonscrire dans le cercle étroit de la matière d'où elle aspire à sortir. Ils lui ferment l'aspect de la vie infinie et lui disent, en lui montrant la taupe, « Nec plus ultra ». Point 15. Quiconque a médité sur le spiritisme et ses conséquences et ne le circonscrit pas dans la production de quelques phénomènes, comprend qu'il ouvre à l'humanité une voie nouvelle et lui déroule les horizons de l'infini. En l'initiant au mystère du monde invisible, il lui montre son véritable rôle dans la création, rôle perpétuellement actif, aussi à l'état spirituel qu'à l'état corporel. L'homme ne marche plus en aveugle, il sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. L'avenir se montre à lui dans sa réalité, dégagé des préjugés de l'ignorance et de la superstition. Ce n'est plus une vague espérance, c'est une vérité palpable, aussi certaine pour lui que la succession du jour et de la nuit. Il sait que son être n'est pas limité à quelques instants d'une existence éphémère, que la vie spirituelle n'est point interrompue par la mort, qu'il a déjà vécu, qu'il revivra encore, et que de tout ce qu'il acquiert en perfection par le travail, rien n'est perdu. Il trouve dans ses existences antérieures la raison de ce qu'il est aujourd'hui et de ce que l'homme se fait aujourd'hui. Il peut conclure ce qu'il sera un jour.
Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.